Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la mort! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Vendredi 9 juillet 2021, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Malheureusement, c'est déjà terminé pour la saison de hockey. En même temps, c'était une épreuve assez difficile à réussir. Du moins dans le cas de remporter 4 victoires de suite contre l'équipe gagnante de la Coupe Stanley l'année passée. Fait que c'était un gros défi, mais ça ne sera pas pour cette fois. Donc le Canadien qui atteignait la finale de la Coupe Stanley depuis 94-93. Ça faisait un petit moment. Mais malheureusement, contre l'équipe championne de l'année précédente, ça devenait un petit peu plus difficile. D'ailleurs, comme on est en plein milieu de l'été, quand même le 9 juillet, d'écouter le hockey, ça fait en sorte que les gens se tournaient vers la télévision, bien évidemment, regardaient le match à la télé. On pourra reparler de la grandeur du stade, mais en tout cas, du stade du Centre Bell. Et le nombre de gens versus le nombre de gens dans la rue, mais quand même. Les codes d'écoute ont été excellentes. Et excellentes dans les deux langues. Parce qu'il faut préciser que, bien sûr, les matchs de la finale étaient présentés, oui, en français sur les ondes de TVA Sports. Mais la CBC relayait les images de Sports Network et l'équipe de Sports Network sur sa chaîne à elle. Donc, pas besoin d'avoir de supplément pour avoir TVA Sports, par exemple, puisque CBC, normalement, est offert sur un service de base. Donc, si vous vouliez écouter le match de hockey, vous n'étiez pas obligé d'acheter TVA Sports pour les séries. Le regarder en anglais ou, à la limite, mettre les images et écouter à la radio les commentateurs pour avoir un commentaire quand même en français. Et les gens l'ont fait. Selon des données compilées par la firme Merkle, qui appartient à l'agence d'en dessous, environ 30% de l'auditoire des 4 premiers matchs entre Lightning et CH provenaient du Québec francophone, mais sur les ondes de la CBC et de la chaîne Sports Network. Parce qu'il y a les deux. Il y a CBC, comme je le dis, qui est gratuit. Et on peut rajouter le Sports Network dans nos forfaits. Donc, les gens regardaient le sport en anglais, propriété de Rogers Media. Ce qui fait en sorte que dans les données de code d'écoute de la semaine, donc les données télé, une émission en anglais se glissait dans les 10 émissions les plus regardées au Québec. Ce qui n'arrive à peu près jamais. C'est même un gala des Oscars, les Emmy Awards tirent jamais autant de codes d'écoute pour se glisser dans le top 25. Évidemment, comme on est l'été et qu'il n'y a pas de grosses émissions en ce moment, c'est toutes des reprises ou des émissions qui ont déjà joué cet automne mais qui passent en reprise l'été. C'est sûr que dans le top 25 des émissions les plus écoutées, il y a du 300 000 de codes d'écoute. Comparativement à une saison automnale où le numéro 25 a 700 000 de codes d'écoute, par exemple. Fait que le hockey en anglais se glisse dans le palmarès, c'est quand même parlant. Et ça confirme encore une fois le message envoyé depuis longtemps à TVA Sport que les gens n'aiment pas les commentateurs de TVA Sport. C'est pas nouveau. Lundi soir, 1 483 000 téléspectateurs ont regardé le quatrième affrontement CH Lightning sur TVA Sport, en plus de 601 000 qui l'ont regardé sur CBC et Sportsnet ensemble. Donc oui, TVA Sport a fait le double de cote d'écoute, un petit peu plus que le double, mais ça veut dire quand même que ça fait que le tiers regardait les images en anglais. Et chose qu'on ne verra probablement pas de sitôt du côté francophone, c'est qu'à CBC, Sports Network dans ce cas-là, qui relaie les images, comme je le disais, dans les commentateurs, sont quand même assez jeunes, c'est dans la quarantaine. Il y a des personnes racisées et il y a des femmes qui participent à la discussion et aux commentaires du match. Comparé à tous les anciens joueurs de TVA Sport, à Sports Network, il y a un match, je pense que c'était le premier, où sur 4 commentateurs, il y avait 2 femmes, 2 hommes, et un de ces hommes-là était racisé. On n'est pas à veille de voir ça à TVA Sport. Lundi soir, la diffusion sur le hockey CBC en anglais a été la 3e émission la plus regardée au Québec francophone, tirant plus de codes d'écoute que Question de jugement à Radio-Canada et Sucré-Salé à TVA, qui a eu à peine 500 000 de codes d'écoute. C'est parlant. Du 600 000, En saison régulière, ça va être l'émission à 7h30 à TVA, à Radio-Canada, c'est-à-dire. Et encore, il y en a qui font le million comme infoman. Mais tu sais, c'est quand même bon, 600 000 de cote d'écoute. Ça se produit jamais, ou à peu près jamais, qu'une émission en anglais soit la plus écoutée du côté francophone. Et ce qui a fait d'ailleurs que les... Vu que c'était soir de match et en plus il y a eu victoire pour le Canadien, la fête nationale, quand même qu'elle a été diffusée à Radio-Canada, Télé-Québec, TVA et Novo, les codes d'écoute additionnés, techniquement, à cote le hockey, mais difficilement. Fait que ça n'a pas été une bonne cuvée, en tout cas... En espérant que les gens qui ont fait le show l'avaient en tête quand même qu'il n'allait pas avoir trop de gens qui allaient regarder. Donc lundi soir, entre 20h et 23h15, 67% des téléspectateurs québécois devant leur télévision regardaient le hockey. Et de ce 67%-là, un petit peu plus que les deux tiers étaient à TVA Sport et le reste était sur les postes anglophones. Ce qui est quand même fort, vu que CBC rediffuse la retransmission de Sports Network, sauf le debriefing de la fin, parce qu'évidemment, il faut passer aux nouvelles un moment donné, mais quand même. La même émission aux deux postes pendant les séries éliminatoires de la LNH ce partenariat n'existait pas pour la clientèle francophone. Donc, RDS et TVA Sports se partageaient les droits respectivement. Ah, OK, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. C'est que dans le fond, CBC et Sports Network et sont les diffuseurs anglophones, mais CBC comme RDS diffusait la semaine et Sports Network comme TVA Sports diffuse la fin de semaine. Dans le cas du Canada anglais, ils se parlent davantage. Donc, d'où pourquoi CBC a quand même diffusé les matchs de finale, même si c'est Sports Network qui était le présentateur et non Hockey Night in Canada. Dans le cas de RDS et TVA Sports, aucune chance que ça arrive, comme c'est la guerre entre Vidéotron et Bell. C'est sûr et certain qu'il n'y aurait pas de compromis entre les deux pour qu'un repitche l'autre. Ça aurait été extrêmement surprenant. Bon, évidemment, l'article sur lequel je me base est également partagé par la vice-présidente Activation de chez Cossette Média, Marie-Christine Simard. Et il faut être abonné à TVA Sport pour regarder le hockey des séries en français, alors que c'est possible de l'écouter sur la CBC gratuitement. C'est donc l'option adaptée pour des foyers qui n'ont pas d'abonnement. Selon Marie-Christine Savard, les séries de fin d'année attirent une clientèle plus vaste que celle de la saison régulière. Des gens qui ne suivent habituellement pas le hockey et qui ne regardent pas souvent la télévision sont devenus fans à la suite de la performance au prénom canadien, notamment chez les plus jeunes, où une large proportion sont des cord cutters. Ce sont des personnes qui ont annulé leur abonnement à un service de télévision, qui n'ont jamais même été abonnés à tout type de télévision payante. Ce type de profil se tourne alors vers les chaînes anglophones gratuites, ajoute-t-elle. Donc, ils peuvent avoir une télévision dans le meilleur des mondes. Règle générale, c'est pour regarder Netflix ou Disney Plus ou whatever quoi. Mais s'ils ont à avoir la télé de base, donc TVA, Radio-Canada, CBC, ils vont privilégier CBC, c'est sûr et certain. Pourquoi payer un supplément pour une petite fraction de temps, surtout, parce que c'est pas pendant toute la, en fait, règle générale, les codes d'écoute des chaînes de sport lorsque le hockey se termine redescendent à un niveau plus bas. Quoique, ils offrent quand même le soccer sur un poste et ils offrent quand même le tennis sur l'autre. Donc, veut pas, il y a quand même des offres pendant l'été. Mais c'est sûr et certain que la folie du hockey fait en sorte qu'il y a des gens qui vont s'abonner davantage. Donc, voilà pour ça. Pour la couverture télé, les gens ont préféré avoir les images, quoique dans le cas de TVA Sport, il y a possibilité de mettre l'image sur mute et de quand même allumer Maguire sur le poste de radio. Ça se fait. Mais ce que j'ai remarqué, du moins dans le cas de la CBC, pour l'avoir été moi-même à le regarder en anglais, ben du moins avoir les images en anglais et faire d'autres choses en même temps, parce que je restais quand même à m'instruire, veut pas. Le son des commentateurs versus le son de la patinoire est beaucoup moins fort que TVA Sport. Dans le sens où, si à TVA Sport, ça se compte leur fin de semaine, ça se raconte des anecdotes dans 82, dans telle série, c'était de même. Si on s'enfarge dans les fleurs du tapis, littéralement, du côté de TVA Sport, du côté de CBC, on commente ce qui se passe, on fait des analyses d'images, on donne des possibilités de ce qui va. Donc, on fait du vrai commentaire et non justement raconter des anecdotes de dans le temps que je gaulais, dans le temps que j'étais attaquant, dans le temps que c'était moi le coach derrière le banc. Fait que tu sais, on enlève toute cette partie-là. Fait que c'est pour ça que c'était plus écoutable en anglais. C'est pas gentil, je le sais. Ils font de leur mieux. Mais après ça, quand t'as des Pierre Houde qui benchent sur le banc, justement, parce qu'ils peuvent pas, et Marc Denis, sauf erreur, qui benchent sur le banc parce qu'ils peuvent pas commenter les matchs importants parce que malheureusement, le poste n'a pas été capable d'accoter l'offre trop faramineuse de l'autre chaîne, ça fait mal. Ça fait mal. Je pense que je l'avais raconté aussi, il y avait eu un sondage pendant 2 heures qui a été dévastateur pour les commentateurs de TVA Sports. C'était un journaliste qui avait publié en question comme ça, là, juste comme ça, sur son Twitter, quel duo de commentateurs préférez-vous? RDS ou TVA Sport? Pierre-Houd ou Louis-Jean? Et en 2 heures seulement, il y avait eu au-dessus de 2000 réponses et c'était 96% RDS, 4% TVA Sport. Et quand le journaliste s'en est rendu compte, il l'a retiré tout de suite parce que c'était un massacre et le sondage durait 24 heures. Mais quand il s'est rendu compte que c'était pas serré 2 secondes, tu sais, ça aurait pu être un 60-30. Ça aurait déjà été un petit peu moins dommageable. Mais 96 à 4, c'est terrible. Et 2000 réponses en 2 heures, c'est fou, là. Fait que malheureusement, ben c'est pas scientifique, c'est sûr, mais tu sais. Et il faut préciser, c'était pas un journaliste de ou RDS ou TVA Sports. C'était vraiment c'était un journaliste de la presse, fait que tu sais, il était pas nécessairement parti. Donc, en fait, les gens qui le suivaient, lui, étaient pas nécessairement plus. En tout cas, techniquement, oui, ils sont plus fans de RDS que non, mais tu sais, il était pas. La question n'était pas biaisée si ça avait été, par exemple, le collègue à Louis-Jean. Ou un collègue la salle de RDS qui avait mis le sondage en ligne. Parce que, règle générale, les gens étaient favorables à l'une ou l'autre. Là, c'était vraiment un journaliste neutre, entre guillemets, mais que, voyant que c'était une défaite cuisante pour l'autre équipe, en bon gentleman, il a voulu le faire retirer. Évidemment, les captures d'écran étaient faites, puis le responsable de TVA Sport étant maudit. Mais après ça... Ça reste parlant quand même. Parce que c'est vrai que du côté de TVA Sport, ça jase, ça jase, ça jase, ça jase. Et on essaie d'être un petit peu plus concis. Ou en tout cas, si ça jase, ça jase dans l'antichambre RDS. Mais pas nécessairement. En tout cas, me semble de mémoire, Pierre-Houd qui raconte sa fin de semaine, au lieu de commenter le match, je sais pas. Qui fait un « Oh là 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 là, rien ne va plus pour le Canadien. » Tu sais, c'est ce genre de petit commentaire-là d'un bord qui n'a pas de l'autre. Je sais pas. Enfin, les joies des séries. Malheureusement, c'est déjà terminé, mais ben, comme on le disait, côte très ardue à remonter. Et ce sera le segment sport du deuxième service pour l'année 2021, très certainement. On s'en va tout de suite entendre en musique Blanc Manger avec Ghetto Blaster, mais je l'ai mélangé avec la télé. T'sais, c'était pas que du sport, c'était de la télé aussi, fait que tout se relie. On s'en va entendre, comme je disais, Blanc Manger. Au retour, l'actualité de la semaine. En ce 9 juillet 2021, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez SFAC. So many 9 to 5 sunny days and music by my side. Yeah. Dès le matin, j'ai de la musique dans ma tête, yo. Quand je monte le son, y'a rien qui peut m'atteindre, non. J'ai reçu un ghetto blaster pour ma fête, yo. Quand j'appuie sur play, je bouge avec la vibe. Ça fait jump jump comme les trampolines. Écoute l'album après rembobine. Dans les maisons, dans les 5 à 7, yo, je peux faire tourner plein de sons, yo, j'ai plein de cassettes. Ok, je débarque avec le funk à la master flex. Quand les speakers sonnent, c'est le climo se place. Je fais un thumbs up, yo, ça passe le test. Je veux pas travailler non-stop, juste mon ghetto blast. Got an 80s ghetto blaster in my car. I wanna drive to a place so goddamn far. The week passed by so many 9 to 5. Sunny days and music by my side. Check. Dans les 80s j'étais même bonné. Mais mes dance moves sont quand même bonnés. Marche dans la porte, pas bien cogné. Parce que quand on blast, yo, c'est symphonique. Quand j'ai pas de charge, j'ai même pas de permis. Je ride amigo jusqu'à Port au Percy. Yo, c'est comme moi, wow, la folle, folle, passe. Pop, pop, passe, c'est mon bon merci. Hey, j'ai ça dans mon bassin, j'fais du beat, 9 à 5, j'suis l'hormone, mon cassin, ça fait chier mon voisin. Non, pour rien au monde, j'veux changer nos places. Et c'était non-stop, que ça fait nos places. Ghetto Blaster qu'on vient d'entendre en musique. Et pour le deux fun facts, en fait, pour continuer là-dessus, bon, oui, 1 300 000 sur un pas, 600 000 sur les deux autres, ça fait 1 900 000, mais ça fait quand même pas tout à fait les records qu'on a déjà vus. 2014, 2015, 2017, on a déjà pogné du 2 millions de codes d'écoute sur la même chaîne, mais comme le rappelle l'article en question, oui, c'est sûr que c'est pas le même 2 millions en 2014 que le 2 millions en 2021. Parce qu'aujourd'hui, il y a multitude d'applications web pour regarder les matchs. Justement, les gens se sont tournés vers la CBC et Sports Network. Il y a sûrement possibilité de le regarder à TSN. Il y a sûrement possibilité de le regarder. Tu sais, il y a les façons de regarder des matchs de sport, peu importe la discipline, deviennent quand même assez faciles sans que ça passe par la télé traditionnelle. Et s'il y a quelque chose, en tout cas là-dessus, qui est un peu qui est un peu dommage, c'est que justement, il n'y aura plus de... il n'y a plus de tronc commun. Dans le sens, bien ça, c'est la même chose pour les bye-bye et tout ça. Il n'y a plus de référence commune à tout le monde. Parce que, comme on le dit chez Cossette Media qui analyse ça, entre autres, puis de règle générale, on le voit en genre de manière, peu importe de quelle manière. Comme le monde a de moins en moins la télévision et privilégie les services en ligne de visionnement, donc les Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney+, ça fait en sorte que les gens ne regardent plus les mêmes choses ou n'ont plus les mêmes références que par le passé. On va prendre l'exemple des années 90 où, à l'époque, tout le monde regardait La Petite Vie. Tout le monde regardait Les Filles de Caleb. Ou, un peu plus vieux, tout le monde regardait Omerta ou Fortier. Et les gens avaient les références. T'sais, se jaser d'une émission de télé le lendemain à la machine à café, on l'a presque plus, ça. Parce que, justement, il y a tellement d'offres, il y a tellement d'émissions qu'on peut regarder tout le monde en même temps, mais tout le monde en même temps peut regarder quelque chose de différent. Fait que dans les plus récentes, on va dire, par exemple, Unité 9, à la limite, La Petite Fugueuse... Mais tu sais, de rendez-vous télé que tout le monde va avoir la même référence. Tu sais, si on va aux années 80, ça serait Musique Plus, que tous les jeunes regardaient les vidéoclips de Musique Plus parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les voir ailleurs, ces vidéoclips-là. Et après ça, revenaient dans la cour d'école ou justement à la machine à café pour les plus vieux, puis à photocopieuse. Puis, pouvait jaser. As-tu regardé hier Les Filles de Caleb? As-tu regardé hier L'Anse et Compte? Mais aujourd'hui, ce bassin-là de tronc commun, cette référence-là que tout le monde pourrait avoir, ça devient de plus en plus difficile. Et ça, justement, pour faire le lien avec les bye-bye, c'est ce que disent... Ben en fait, c'est vu que c'est Simon-Olivier Fecteau depuis quelques années, il le répète un peu chaque année, c'est difficile de trouver quelque chose que tout le monde a vu, ou du moins, tout le monde a le référent. Ce qui m'amène à mon deuxième fun fact, et qui sera probablement dans le bye-bye cette année, c'est Georges St-Pierre qui est venu tanner les francophones avec son site de paris en ligne Bet99, qui disait que la meilleure place pour faire des bets en ligne, des paris en ligne, c'était sur Bet99. Ben, sachez qu'au Canada anglais, l'annonce a joué une fois, puis c'était tout. On voyait Georges St-Pierre dans la première période, puis c'était tout. Il était pas mur à mur à TVA Sport, il était là une fois à Sports Network, et that's it. Fait que si c'était un argument à avoir pour écouter les matchs en anglais, c'est que Georges St-Pierre, dans son anglais cassé, il venait juste une fois. Et non à toutes les pauses du côté de TVA Sport. Quoique, en anglais, je pense que c'était DoorDash qui était les plus tannants. Mais bon, ça fait partie des commanditaires, on va dire ça comme ça. Donc voilà, malheureusement, il n'y a plus de tronc commun pour les gens. Il n'y a plus de... C'est ça, cette espèce de base sur laquelle on peut faire une blague sur un sujet ou sur une émission ou sur une publicité et que tout le monde va avoir le référent. Le meilleur exemple que je pourrais sortir aujourd'hui, ben en tout cas, qui est très niché quand même, c'est la publicité de la ville de Québec qui disait tu vas te faire pogner si tu fumes une puff de pot, ou en tout cas, ils ont essayé de faire un TikTok avec ça d'un gars qui danse. Très malaisant. Ça a passé sur Instagram. Donc encore là, faut être sur les réseaux sociaux. A passé quand même un petit peu sur YouTube. Sauf que la trame musicale utilisée pour faire le rap de la puff de pote, que la police a le moyen de te pogner quand même, le message a passé. Je suis capable de le répéter à peu près. Je sais pas si c'est exactement ça, mais le message passe. Puis, cette trame-là est en ce moment dans une publicité en ligne de l'abbé. La même musique, la même séquence musicale est pour la promotion de chandails de plage et de sacs de plage au Labbé. Labbé du Tout. Fait que ça, c'est juste drôle quand la même trame musicale est utilisée dans deux publicités, mais c'est le même marché. Fait que ça, c'est un peu drôle que les boîtes ne sont pas au courant des trames utilisées, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Il y avait... publicité de logement, puis une publicité de crème, je pense, qui ont utilisé la même trame il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Fait que c'est un peu drôle. C'est un peu drôle dans ce cas-là, mais ça fait sourire. Donc, faites attention, publiciste. Faites attention. Et pour rester dans ce domaine publicitaire-là, et qui est peut-être une première, mais c'est un petit peu triste, par exemple, pour... peut-être l'employé qui a fait l'affiche en question. Les films Séville sur Facebook ont publié l'affiche pour le nouveau film de Ian England qui va s'appeler Sam. Donc, qui est encore une fois Antoine-Olivier Pilon, mais qu'au lieu d'être de la course, c'est de la natation et de la nage de vitesse. Donc, qui se démène puis qui a des problèmes. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Mettant en vedette Stéphane Rousseau et Mylène Mécaille aux côtés d'Antoine-Olivier Pilon. Ils ont dévoilé l'affiche sur les réseaux sociaux ce matin. Et les commentaires sont tellement méchants sur l'affiche. Parce que c'est vrai que l'affiche est pas belle. Tu sais, Mylène Mécaille, au moins, il aurait pu la prendre en souriant. Mais non, elle a la bouche entrouverte. Comme si elle avait vu un fantôme. T'as Stéphane Rousseau qui fait une face de Stéphane Rousseau. T'as Antoine Pilon qui est comme semi-transparent dans une piscine. Fait que, tu sais, l'affiche n'est pas belle. La police de caractère n'est pas excellente non plus. Et tous les commentaires disent... Ouais, ben ça donne pas tant le goût de le voir. De loin, la pire affiche de film des 5 dernières années. Trop hâte de voir ce film à propos d'une famille qui vit dans une piscine. Je connais plein d'excellents graphistes qui se cherchent du travail si jamais. Fait que tu sais, probablement que le gars des films Séville était heureux de sa job et ça fait ramasser sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que l'affiche est pas particulièrement belle. T'sais, ça aurait pu être... En tout cas, c'est juste 4 personnes sur l'affiche de taille un peu différente qui n'ont pas vraiment des visages... C'est le genre de visage que quand tu mets sur pause une émission de télé ou un film pendant que la personne parle, c'est que ça lui donne une drôle de mimique. Ben, c'est un peu ça, l'affiche de Sam, le nouveau film de Ian England. Donc... À voir avant peut-être qu'il y ait une deuxième version. Sait-on jamais. En tout cas, les commentaires sont pas très tendres avec la page des films Séville, distributeur du film Sam, prochain film de Ian Englen, sur Antoine-Olivier Pilon qui se démènera pour être un bon nageur au lieu d'être un bon coureur comme dans 1,54. C'est vraiment similaire. En tout cas, la bande-annonce laisse présager quelque chose de similaire, puis là, il se fâche après son père, puis j'ai écœuré, puis en tout cas, ça risque d'être proche. Ça risque d'être proche, mais bon, le tandem England, Olivier Pilon est de retour. Antoine-Olivier Pilon. Courte pause, au retour, on va aborder le fameux passeport vaccinal, celui qui fait peur à tous les conspirationnistes. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Le Festival Off de Québec est de retour cette année en mode petit off, mais avec la même fougue qu'on lui connaît depuis plus de 15 ans. Venez découvrir des artistes qui jubilent à l'idée d'avoir enfin un public devant eux. Pour vous donner le goût de sortir de chez vous, Chiz vous offre une compilation des artistes qui seront présents à cette édition 2021. Découvrez-la sur le chiz.ca. Le Festival Off, du 7 au 11 juillet.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
De l'Égypte antique, la mère créatrice d'amour romantique. Je prie ce sacrifice, ce poème, ce cantique, pour que l'apocalypse, en cette nuit d'éclipse, entre nous finisse, comme les astres s'unissent. Je t'ai jeté sans.
Gab Paquet, qu'on vient d'entendre en musique avec Magie Rose. On faisait peur avec ça. En tout cas, dans la sphère complotiste, on faisait peur avec le passeport vaccinal qui allait empêcher nos droits et libertés de circuler, puis qu'il fallait se faire vacciner obligatoirement, puis nanana, nanana, nanana. Fait que toutes les raisons étaient bonnes pour chialer sur un éventuel passeport vaccinal, quand même que ça a déjà été instauré dans d'autres pays dans le monde depuis très longtemps. Finalement, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé hier qu'il allait avoir un passeport vaccinal à partir de septembre, seulement et uniquement si les cas de COVID remontent. Et ça, faut le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont omettre cette information-là. À partir du 1er septembre, il faudra avoir son code QR, ou peu importe comment ce que c'est, faudra avoir sa preuve de vaccination. Si jamais les cas de COVID remontaient de manière importante et qu'on permettrait aux gens vaccinés de continuer à vaquer à leurs occupations en comparaison à ceux qui auront choisi de ne pas se faire vacciner pour se protéger, qui, eux, devront trouver d'autres solutions ou, en tout cas, devront faire beaucoup plus attention. Ce qui fait en sorte que, et là, je vais citer Christian Dubé là-dessus, en septembre, quand tout le monde aura eu le temps ou la possibilité de se faire vacciner, on va ajuster notre stratégie pour tenir compte de la vaccination qui va reposer en bonne partie sur l'utilisation d'un passeport vaccinal. Et là, ce que les gens ont l'impression d'oublier, c'est justement, vu qu'on va avoir un code QR, vu qu'on va avoir un papier, à la limite, ça va être dans nos téléphones, il n'y aura pas une feuille, tu sais, il n'y aura pas vraiment un livret d'un passeport vaccinal. Tu sais, les gens arrêtent sur le mot passeport et s'imaginent le logo du Québec, il faut prendre notre photo d'assurance maladie avec notre date d'expiration. Tu sais, ils imaginent un passeport comme pour voyager dans le monde. Mais de toute façon, pour voyager dans le monde, à la base, il y a certains pays dans le monde qui te demandent, avant d'aller dans certains endroits, de te faire vacciner contre certaines maladies qui peuvent être sur place. Aller en Asie ou en Afrique, en partant de l'Amérique, sans vaccin quel qu'il soit, bonne chance. T'sais, ils vont te demander de te faire vacciner pour voyager, donc des vaccins pour avec ton passeport, tu sais, ça ressemble à un passeport vaccinal. Il faut que tes vaccins soient à jour aussi. Fait que, tu sais, c'est pas nouveau. C'est sûr que c'est un peu inquiétant, entre guillemets, vu que c'est à l'intérieur de nos murs. Mais en même temps, si ça peut faire en sorte que les gens qui vont être dans les magasins vont avoir une certaine protection parce que, ou en tout cas, auront beaucoup moins de chances de croiser des gens qui peuvent être infectés de par le fait qu'ils ne sont pas vaccinés et le donner quand même, parce que ça aussi, cette possibilité-là reste malgré tout. Parce que si on remarque, dans les dernières hospitalisations, dans les derniers cas répertoriés, dans les derniers chiffres, le pourcentage de gens qui n'étaient pas vaccinés qui se sont ramassés à l'urgence ou qui ont été déclarés positifs, étaient pratiquement l'ensemble de ces personnes-là. À un très, très, très faible pourcentage, c'était des gens qui avaient reçu deux et une dose. Parce que oui, ça protège, mais ça protège des complications, le vaccin. Parce que oui, on peut quand même l'avoir, on peut quand même avoir la COVID, mais qu'il y ait des complications qui obligent une hospitalisation comme l'année dernière, ça, il y a beaucoup moins de chances, les chances sont réduites. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, les gens qui se retrouvent à l'urgence n'ont pas ou ont seulement eu une dose récemment.
sont très, très rares, les gens avec deux doses. Je pense que c'est à peine 4 ou 5 de gens qui avaient les deux doses et qui ont malheureusement quand même dû aller à l'hôpital. Mais en ce moment, les gens non vaccinés sont les plus à risque. Évidemment, aux États-Unis, c'est la même chose. Oui, c'est bien beau que dans certains États, ils ouvrent les stades, ils ouvrent les arénas, ils ouvrent tout, mais ça reste quand même que dans les États les plus pauvres ou dans les États où il y a le moins de vaccins qui se sont rendus, il y a encore beaucoup de cas de COVID, mais parmi seulement les gens qui sont non vaccinés. C'est pour ça qu'il y a l'argument « Ouais, mais ça a été développé trop vite. » Rappelons-nous que c'est l'entièreté de la planète qui a cherché une solution pour enrayer le plus rapidement possible une maladie. Parce que si tous les scientifiques du monde se jasaient autant qu'ils l'ont fait pour trouver un vaccin à la COVID comme ça a été fait en ce moment, t'sais, pour n'importe quelle autre maladie, si toute la communauté scientifique se mettait ensemble avec l'argent nécessaire surtout, il y a bien des maladies qui auraient été tassées depuis longtemps aussi. Mais malheureusement, comme le cas de la COVID faisait en sorte que ça paralysait toutes les sphères planétaires, l'argent a parlé et les scientifiques ont eu les moyens de leurs ambitions dans ce cas-ci. T'sais, ils ont été capables de développer quelque chose plus rapidement parce qu'ils ont eu les moyens financiers de le faire. Quand on veut, on peut. C'était littéralement ça dans ce cas-là. Et dans le cas, bon, du passeport vaccinal, si les passeports devaient être utilisés, la preuve vaccinale n'empêcherait personne, vacciné ou non, de recevoir des services jugés essentiels. C'est seules les activités et les services non essentiels qui pourraient être assujettis à sa présentation. Donc, on ne vous interdira pas nécessairement l'accès à l'épicerie parce que vous n'êtes pas vacciné, mais pour aller au cinéma, ça se pourrait être un petit peu plus difficile. Ou si le nombre de gens est contingenté, comme par exemple dans un festival, dans un spectacle, ben si vous n'êtes pas vacciné, vous allez être remis à la fin de la ligne et on va prioriser les gens qui n'ont pas de risque de transmettre la maladie. Le festival Lollapalooza qui se tient à Chicago le 29 juillet du 29 juillet au 1er août exigera eux aussi une preuve vaccinale de tous les festivaliers ou un test négatif de dépistage effectué dans les 24 heures précédant le spectacle. Donc, c'est déjà commencé. Et dans le monde, comme je le disais, par exemple, du côté du Moyen-Orient, eux qui ont été dans les premiers à réussir à vacciner leur population le plus, quand même assez rapidement, ben, ça a fait en sorte que ils ont pu instaurer le passeport vert qu'ils appelaient. J'essaie de retrouver exactement comment ça s'appelait. Bon, l'article, évidemment, je tomberai pas dessus comme par hasard la dernière. Bref. Fait que tu sais, on commence à regarder la possibilité ailleurs dans le monde. Et bon, comme je le disais, dans le cas du passeport vaccinal, si la preuve serait exigée, ça serait... Bon, en tout cas, les épiceries devraient être épargnées parce que tout le monde a besoin de se nourrir, évidemment. Mais par exemple, un restaurant, ça serait du pour emporter. On demanderait aux gens de ne pas rester dans la salle à manger. Ce genre d'exemple-là, je dirais, qui fait en sorte que... certains trucs vont être un petit peu plus épargnés que d'autres, mais quand même. Donc, encore une fois, le passeport vaccinal pourrait entrer en vigueur cet automne, ou en tout cas à partir du 1er septembre, seulement et uniquement si les cas de COVID remontent, s'il y a une quatrième vague dans ce cas-ci, ça devient problématique. On pourrait garder des activités ouvertes, on pourrait garder les trucs ouverts, mais exiger de voir si les deux doses de vaccin ont été données. On s'arrête encore un court instant, on va entendre Le Couleur avec Silhouette. Au retour, la conclusion de l'émission. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et CFAQ. De retour pour la conclusion de l'émission de cette semaine, c'est Israël, voilà, qui a rapporté le passeport vert vaccinal en février, qui permettait aux citoyens de se rendre au gym, dans les piscines, au cinéma et dans les salles de spectacle. Les services non essentiels, entre guillemets. Donc, probablement qu'il va se passer la même chose du côté québécois. Encore une fois, si jamais les cas de COVID augmentent, et ça risque d'être par région et par MRC, comme on le voyait dans les dernières semaines avant la levée complète des zones rouges et des zones Bourgogne. C'était encore rouge et Bourgogne en Beauce et à Rivière-du-Loup. Là, finalement, tout est repassé au vert depuis. Mais tu sais, au lieu de cibler Chaudière-Appalaches dans son ensemble, quand ça allait bien à Lévis, il y a quand même un 45 minutes, une heure avant d'arriver à Saint-Georges-de-Beauce, ben on y avait été par région. Fait que probablement que ça risque d'être la même chose si jamais il devait y avoir des limitations cet automne. Mais encore une fois, on se croise les doigts. Prenez rendez-vous pour votre deuxième dose. Oui, ça se peut qu'il y ait des symptômes un petit peu plus importants que la première. C'est pas complètement impossible. Je suis le premier à avoir eu officiellement ma deuxième dose hier et d'avoir été engourdi, chose qui n'était pas arrivée la première fois. Mais à quoi sont liés ces effets secondaires? Pour s'être posé la question moi-même, ces réactions qui peuvent être provoquées par une vaccination contre la grippe sont la preuve. Donc, la grippe, la COVID, ces choses-là, sont la preuve que le système immunitaire est efficace et en action. Donc, les effets, donc si vous avez mal à la tête, de la fatigue, des courbatures, peut-être suite à la deuxième dose d'un Pfizer ou d'un Moderna, c'est entre autres parce que votre système immunitaire travaille. Justement, en réaction au fait que vous avez déjà été une première fois attaqué, entre guillemets, par la création du premier vaccin. Et pour se défendre, ça vous gruge un petit peu d'énergie, donc c'est normal de ressentir peut-être un petit peu plus de fatigue, mais c'est parce que votre système immunitaire serait en train de combattre la deuxième attaque, entre guillemets. L'Organisation mondiale de la santé indique que ces effets sont dus au fait que votre système immunitaire demande à votre organisme de réagir de plusieurs manières. Il augmente donc le flux sanguin, ce qui peut causer des mal de tête, veux pas, afin que davantage de cellules immunitaires puissent circuler, et il élève votre température interne afin de tuer le virus. Donc les maux de tête, la fièvre, dans certains cas, ça peut s'expliquer de cette manière-là. C'est d'ailleurs pourquoi les plus jeunes, donc les 12-30, on va dire, ont tendance à se plaindre davantage des effets indésirables. C'est parce que leur système immunitaire est beaucoup plus vif et réactif que celui des personnes qui avancent avec l'âge, semble-t-il. La première dose active le système immunitaire, tandis que la deuxième agit comme un rappel ou une consolidation de cette possible maladie qui pourrait éventuellement vous attaquez si vous êtes malchanceux. La première injection, c'est le priming, donc l'amorçage. On fait une première alerte au système immunitaire, selon Brigitte Autran, qui est immunologue. Le système apprend alors à reconnaître le virus. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se passe là. Et comme c'est étranger, je vais aller le combattre. Il y a quelque chose qui se passe, je vais y aller. Je vais voir si je suis capable de faire quelque chose. Comme c'est en petite dose, comme ce n'est pas la maladie en tant que telle, il faut le rappeler, les virus, les vaccins n'ont pas été faits à partir de la maladie morte, mais bien la version recréée. Ce qui fait en sorte que le système apprend à reconnaître le virus. La deuxième injection vise à amplifier et consolider la réponse immunitaire, ce qui explique une possible plus forte réaction du système comparativement à la première, vu que c'est juste la première intrusion. Fait que première fois que ça arrive, OK, c'est anodin, c'est nouveau. On va le combattre, c'est correct. Et là, il y a une deuxième fois. Donc là, c'est vrai que le système, il se dit « Ah, je connais ça, par exemple. Fait que je sais comment... je sais comment m'y attaquer, je vais tout mettre ça pour que ça passe le plus rapidement possible et tout ça pour me réguler et tout ça. Donc voilà pourquoi ça peut peut-être faire certaines choses. Et c'est entre autres pour ceux qui ont reçu les deux doses de Pfizer. Évidemment, Moderna, il peut y avoir quelque chose de similaire, mais dans les cas des Pfizer, ça peut arriver. La fréquence des réactions systémiques et particulièrement de la fièvre, fatigue et maux de tête est plus importante. Un constat similaire. Bon, on voit un constat similaire chez Moderna. Une étude publiée dans la revue JAMA du côté de l'Europe, comme effet secondaire, la fatigue à presque 60 % comparativement à 30 % pour la première dose, les maux de tête de 46 à 25, les myalgies 44 à 19. Les effets secondaires se font un petit peu plus sentir, mais techniquement, c'est une bonne nouvelle, comme votre système immunitaire est en train de se défendre. Outre Israël, fin de la parenthèse médicinale, ça aurait été le segment médicinal du deuxième service en 2021. Quoique le sport, je vais quand même y revenir pendant les Jeux olympiques pour avoir couvert quand même les autres Jeux dans les années précédentes du deuxième service et même du réchaud en 2016. J'aime quand même suivre les Jeux olympiques, mais ça a été confirmé. Il n'y aura pas de spectateurs aux prochains Jeux. Et en plus, ça se fera à huis clos. Donc, seulement les athlètes et probablement les entraîneurs et encore seront autorisés à être présents dans les stades. Mais pour l'instant, comme le Japon a décrété un nouveau confinement, pour l'instant, les spectateurs ne devraient pas être admis, du moins à moins qu'il y ait un autre truc qui vienne pas canceller, mais en tout cas qui vienne mettre à jour les informations. Mais pour l'instant, même les Japonais ne pourront pas assister aux Jeux olympiques jusqu'à maintenant. Donc, ça regarde un petit peu mal du côté de l'Asie, mais ils sont un petit peu moins vaccinés aussi. Fait que ça a le temps de changer, veut pas. Il existe également le Corona Pass au Danemark qui emploie depuis le 6 avril dernier un document disponible en format papier ou sur une application qui permet aux personnes pleinement vaccinées d'accéder aux restaurants, salons de coiffure, cinéma et théâtre. Les responsables des lieux publics qui ne vérifient pas le Corona Pass des individus s'exposent à des amendes qui peuvent aller de 400 € jusqu'à 6 000 €. S'il y a des cas de récidive. Donc, certains gens qui voudraient défier, là, comme en ce moment, on a des commerces québécois qui se sont inventés une affiche. Ici, je porte le sourire au lieu de porter le masque. Et en plus, ils se répertorient entre eux autres. Donc, sur des groupes publics, sur Facebook en ce moment, il y a des gens qui se vantent de tenir des dépanneurs, des épiceries, des magasins de peinture. L'agence de voyage à Val-Bélair, c'est vrai. Une agence de voyage à Val-Bélair qui a été un peu la première à proposer le port du non-masque dans son édifice. Se répertorie en ce moment sur Facebook, dans des groupes publics, donc tiennent une carte avec les commerces, les adresses des gens qui disent « Non, ici, vous n'êtes pas obligé de respecter les mesures sanitaires mises en place. » Ce qui peut faire en sorte aussi qu'il y aurait des petites rencontres qui pourraient se faire avec la santé ou certains officiers qui pourraient passer pas loin. Sait-on jamais. Donc, une autre idée brillante de la complotosphère et des conspignets de se répertorier entre eux autres et de se vanter de ne pas porter le masque dans ces édifices. On est rendu là. Bref, c'est là-dessus que se termine le deuxième service pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Restez branchés ici sur les ondes à Québec. On diffuse en direct du off cet après-midi. Donc, à plus tard. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie.
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.